franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, le biologiste Gilles Boeuf nous raconte comment les saumons se préparent à passer de l'eau douce à l'eau salée pendant leur migration.
Pourquoi nos saumons bretons ou les saumons de l'Allier vont-ils au Canada? Et ça, c'est lié bien sûr à des aspects physiques de géologie et de dérive des continents. Ces animaux-là se sont mis à aller en mer parce que en mer, il y a plus d'alimentation qu'en restant en rivière uniquement. Et puis, comme les continents se sont séparés de quelques kilomètres tous les ans, on finit maintenant par faire 15 000 kilomètres.
Ouais, mais alors, ce qui est fou, c'est que ces animaux sont capables donc de s'adapter à un milieu d'eau douce pour ensuite découvrir la salinité.
Ah oui, tout à fait.
Et ça, ils le font sans aucun problème.
Alors, c'est pas sans aucun problème. Alors, justement, moi, j'ai passé 18 ans de ma vie à travailler là-dessus. Ce qui est superbe, c'est de voir un petit saumon qui peut très bien vivre 15 mois en rivière, ou même 2 ans ou 3 ans, ça dépend des endroits, va avoir cette idée bizarre, alors qu'il ne connaît pas le milieu salé, ouais, d'acquérir, alors qu'il est toujours en rivière, des capacités de régulation de l'eau salée.
Non mais c'est incroyable.
Ah, bien sûr, ouais. Et c'est lorsque ceci est prêt que ça déclenche la migration active. Alors bien sûr, un saumon breton qui naît à 50 km de la mer est dans la mer le lendemain, quand il est parti, du centre du Finistère par exemple, ou des Côtes d'Armor, un saumon de l'Allier, il met quand même 10 semaines pour faire ces 1000 km qu'on évoquait tout à l'heure.
Donc, en prévention de son voyage océanique, il va être équipé d'une certaine manière pour pouvoir affronter cette traversée.
Et là, on sait très bien maintenant que des hormones comme celle de la glande thyroïde sont essentielles. Si jamais on lèse la glande thyroïde, ça ne se produit pas. Il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène, effectivement, de préparation à la migration et le phénomène d'adaptation à l'eau salée, qui doivent être conjoints, mais qui sont pas par les mêmes systèmes de régulation.
Mardi, l'équation de Dirac avec Bruno Mansoulier et Lison Bernet.
I gamma mu dmu moins m psi égale 0.
Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement alors? Cette équation, on savait plus que
absolument.
Dirac lui-même.
C'est pas la première fois. Je crois que les équations de Maxwell aussi contenaient plus que ce que Maxwell avait mis dedans.
Donc qu'est-ce qu'on entend alors?
Alors voilà. Alors pour Dirac, il a cherché à décrire le comportement d'un électron. Donc on connaissait déjà bien l'électron. Cette particule qui est banale, qui est des constituants de nos atomes, et en particulier dont on avait découvert la propriété qui s'appelle le spin, qui est une espèce de rotation sur elle-même, qui est apparentée à une rotation sur elle-même de l'électron, et qu'on ne savait pas décrire en équation. Les équations de la mécanique quantique et de la relativité ne permettaient pas cette description avec le spin. Et donc Dirac avait cherché à résoudre ce problème-là, uniquement, d'écrire un électron avec son spin. Et il y est arrivé en écrivant cette équation. Et là, il se rend compte qu'il y a deux solutions. Il y a une solution qui est l'électron qu'il cherchait à décrire, et puis il y a une autre solution à l'équation. Et là, c'est vraiment le génie, parce que c'est une situation qui est très courante. C'est-à-dire on construit une équation pour décrire un phénomène, et puis il y a des solutions supplémentaires. En général, on se dit, c'est pas grave, on va mettre dans le manuel de l'équation, s'il vous plaît, ignorez les solutions excédentaires, d'accord?
Mais pourquoi on fait ça d'ailleurs? C'est de la paresse?
Non, parce que c'est naturel, on a construit l'équation pour faire...
On est content de ce qu'on a trouvé.
On est content de ce qu'on a trouvé, ce qui était déjà très bien, comme je dis dans le livre, il aurait déjà eu son prix Nobel rien que pour ça, certainement. Ouais. Mais là où il a vraiment été génial, c'est qu'il a cherché à comprendre ce qu'était cette deuxième solution. Il a commencé par penser que c'était des électrons qui remontaient le temps. Et c'était un peu bizarre, et après il s'est rendu compte que ça pouvait être une particule qui ressemble à l'électron, qui descend le temps tout à fait normalement, mais qui a une charge opposée de celle de l'électron, et qui est susceptible même de s'annihiler s'il rencontrait un électron.
C'est l'anti-électron?
C'est l'anti-électron, qu'on appelle le positon. Ouais. Donc positon en français, positron en anglais, et qui a été découverte 3 ans plus tard, expérimentalement, dans les rayons cosmiques, et qui est maintenant utilisé par exemple dans la tomographie par émission de positons, qui est un examen médical, pas courant, mais fréquent.
Mais on peut dire qu'il a découvert l'antimatière?
Il a absolument.
Au travers de cette histoire d'électrons?
Il a inventé l'antimatière à travers son équation.
C'est quand même génial, non?
Ah, c'est absolument génial.
Une découverte fascinant.
Absolument gigantesque.
Ça veut dire qu'il a eu davantage foi dans son équation? Il a pas mis de côté l'autre lecture possible de l'équation. Il a eu foi dedans, quoi.
Il a eu foi dedans au point de penser que la nature obéit à son équation.
Mercredi, Freud et l'hypnose avec l'historienne Elisabeth Roudinesco.
Il arrive à Paris pour voir Charcot. Mais Charcot, c'est la médecine hospitalière française, les grands patrons qui s'occupe des femmes du peuple.
C'est la salpêtrière.
C'est la salpêtrière. Mmh. Il s'occupe des femmes du peuple. Et il veut démontrer que l'hystérie est une maladie fonctionnelle et pas organique. Mais Charcot utilise l'hypnose à des fins strictement expérimentales et pas thérapeutiques.
Oui. C'est même du spectacle. Hein.
C'est du spectacle. Mais ce qui compte pour Charcot, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas thérapeute, mais quand même, ce qui compte pour Charcot, c'est de faire sa démonstration, qu'il fait magistralement. Ensuite, c'est pas trop son problème. Ouais. Il soigne aussi. Ouais. Hein, faut pas démolir Charcot.
Mais il y a ce lien hystérie-hypnose très très fort autour de Charcot.
Hein. Évidemment.
C'est vraiment pour ça qu'il l'utilise.
Et ça, Freud vient à Paris parce que c'est le grand maître de l'hypnose. Et il le dit très bien. Donc, on cherche ce que c'est que les processus psychiques derrière l'inconscience. Et pourquoi va-t-il ensuite à Nancy? Parce que l'école de Nancy, Bernheim et le vieux Liébeau, comme il l'évoque, ce sont les médecins des pauvres. C'est-à-dire, eux, il reproche à Charcot de se servir de l'hypnose uniquement pour fabriquer de l'hystérie et la défabriquer, c'est-à-dire montrer que cette maladie n'est pas organique. Et eux, ils appellent suggestion, hein, c'est pas tout à fait hypnose, pour guérir, pour aider les gens. Donc, c'est thérapeutique. Et puis, il y a une lutte de classe, une lutte province-Paris.
C'est ça. Ouais. Et Freud, alors, dans tout ça,
il fait la synthèse.
Il va rue Stanislas, à Nancy, où travaille Bernheim. Et puis, effectivement, il a eu l'expérience de Charcot. Donc, il prend des deux, au fond.
Ah ben absolument. Ouais. Il fait la synthèse des deux. Et il fait donc la synthèse, en fait, de deux écoles, mais surtout de deux choses qui existaient depuis Mesmer. C'est-à-dire, trouver la théorie de l'hystérie comme maladie psychique et trouver la méthode thérapeutique pour l'approcher. Donc, il fait la synthèse entre une psychothérapie, qui est l'école de Nancy, et une théorie médicale, qui est l'hystérie. Et il ajoute une troisième chose que tout le monde voyait et avait entendu, mais Freud va se mettre à le théoriser. Mais attention, il ne théorise pas à partir de n'importe quoi. Tout le monde y pensait, le contenu sexuel. C'est-à-dire, ces femmes sont aussi atteintes de problèmes sexuels, parce que elles sont, et c'est pour ça qu'elles étaient condamnées aussi comme sorcières simulatrices, elles ont des explosions d'exhibitions sexuelles, etc.
Jeudi, la douleur chronique avec Serge Perrault et le sociologue David Le Breton.
Il y a plusieurs éléments dans la douleur, il y a la souffrance, et pour moi, pour les différencier, je pose la question tout simplement au patient, combien vous avez mal, ça c'est la douleur. Combien vous êtes mal, ça c'est la souffrance. Oui. Je dirais que d'une façon assez simple. Après, bien sûr, on peut aller plus loin. Et pour les patients douloureux, il y a plusieurs problématiques que David Le Breton a plusieurs fois donc mis en avant dans ses livres. La première chose, c'est, je dirais, la question du doute, l'ombre du doute. Mm-hmm. Ces patients ont-ils vraiment mal? Donc, par rapport à ce doute, il a besoin de reconnaissance, d'être reconnu comme douloureux. Ensuite, je dirais, c'est une expérience qui, effectivement, va détruire. C'est une expérience aussi de l'injustice. Pourquoi ça m'arrive à moi et pourquoi, moi, on peut pas me soigner? Voilà. Et puis, c'est aussi une expérience de la quête du sens. Et David Le Breton parlait de ces différents types de douleurs. Je dirais que quand une douleur a du sens, c'est déjà plus facile de la supporter. Une douleur qui va être subie, qui va être donc qui arrive sans qu'on comprenne, eh bien, il n'y a pas de sens. Et souvent, les patients... Leur quête, c'est aussi entre la reconnaissance et le besoin de sens.
Oui, Jean-Paul nous dit, atteint d'une maladie neurodégénérative chronique, quand je vois les bien portants qui se plaignent, qui ont des états d'âme, je les envie. Peut-on dépasser ces douleurs chroniques? C'est tout l'objet justement de cet ouvrage aussi, David Le Breton, la façon de réinventer, en tout cas peut-être.
Oui, souvent d'ailleurs, pour prolonger le propos que vous venez de citer, les gens nous disent, les gens qui sont douloureux chroniques nous disent, vous ne le savez pas, mais vous vivez dans le paradis. Mmh. Voilà, je crois qu'il faut jamais oublier ça aussi. Et donc effectivement, dans le livre, j'essaie de pointer un certain nombre de stratagèmes que chacun invente pour essayer de s'en sortir. Je les ai appelés par moments des liturgies intimes. Je me souviens d'une femme, par exemple, qui, lorsqu'elle sent que sa douleur va s'accroître, qui se prépare du thé. D'autres qui vont se coucher, d'autres qui vont marcher, d'autres qui vont lire. Le tout, c'est de ne pas penser en permanence à la douleur. Parce que plus on pense à sa douleur, et plus on lui donne de l'énergie, en quelque sorte. Plus on l'investit, en quelque sorte. Donc, il faut trouver des techniques, c'est ce que j'appelle des techniques de sens, qui permettent d'aller au-delà. Pas avec la méthode Coué, n'y pensons plus, essayons de ne plus... Ça ne marchera jamais, évidemment. Mais par contre, avec des techniques de sens, on connaît bien l'hypnose, on connaît la relaxation, on connaît la sophrologie, on connaît le... Il y a tout un tas de techniques qui se sont développées ces dernières années et qui permettent à des patients donc d'échapper à ce tournoiement, à cette rumination de la douleur qui accroît la souffrance. Mmh. Il y en a d'autres qui écrivent des livres, entre parenthèses, hein, j'en cite un certain nombre, qui écrivent leur douleur. Donc là, qui établissent une narration très très précise de ce qu'ils ressentent. On peut imaginer que d'autres en font de la musique ou autre. Le tout, c'est de prendre sa douleur à bras le corps et de ne pas être hypnotisé par elle.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.